Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, évidemment. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une le séisme politique qu'on est en train de vivre. Un président de la République qui vient d'être réélu, mais qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Jacques Serret va nous dire comment Emmanuel Macron compte gouverner et si Elisabeth Borne va pouvoir rester première ministre. Le Rassemblement national crée la surprise et obtient 89 sièges de députés. Victor Chabert nous dira depuis l'Assemblée nationale quel rôle vont jouer ces élus du RN, le RN qui est désormais le premier parti d'opposition à l'Assemblée. On reviendra également sur le résultat de la NUPES, résultat en demi-teinte, et sur le rôle qui pourrait être stratégique des députés républicains. On en parle avec vous, vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. On est également avec Prisca Thévenot. Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour.
Porte-parole de l'AREM, députée des Hauts-de-Seine, et avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise, mais surtout nouveau député NUPES LFI. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Le nouveau député.
Merci.
Et à tout de suite également. C'est donc une gifle pour Emmanuel Macron. Pas de majorité absolue pour le groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. 245 députés élus seulement à l'issue du second tour des législatives. Pour faire voter des lois, le camp présidentiel va devoir convaincre une quarantaine, voire une bonne cinquantaine de députés de l'opposition à chaque fois. Mission qui s'annonce éminemment compliqué pour le chef de l'État. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Doit-on s'attendre à vivre dans une France ingouvernable durant les cinq prochaines années ?
Eh bien, dans l'immédiat, oui. Emmanuel Macron se retrouve coincé. En l'état, il ne peut faire appliquer le programme pour lequel il a été élu. Illustration avec la plus emblématique de ces réformes, celle des retraites. Il y a 17 jours, dans une interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron l'assurait au futur simple. La réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023. Le président aurait peut-être dû l'évoquer au conditionnel. C'est en tout cas ce que pense désormais l'insoumis Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis.
La retraite à 65 ans. Ce soir, elle a sombré grâce à ce résultat, grâce à ceux qui sont venus voter. C'est très concret et c'est une première en 5e République. Le président est minoritaire à l'Assemblée nationale.
Sans majorité absolue et avec une majorité très relative, tout le projet d'Emmanuel Macron semble comme paralysé, Romain, figé. Autre exemple avec le projet de loi annoncé comme imminent, celui sur le pouvoir d'achat prévu pour cet été. Le gouvernement prévoyait un chèque alimentation, une ristourne ciblée sur les carburants. On imagine déjà l'hémicycle divisé sur ce projet, pas assez ambitieux pour les députés de la NUPES, trop dépensier pour les Républicains, et entre ces deux forces, des députés ensemble écartelés, sans majorité pour faire passer les textes. On voit mal comment cette situation peut perdurer. Soit Emmanuel Macron devra à terme dissoudre l'Assemblée, soit parvenir à un accord avec les Républicains pour atteindre la majorité absolue, ce qui semble à ce stade impossible.
Jacques, au lendemain de ce résultat décevant pour la Macronie, la première ministre Elisabeth Borne est sous le feu des critiques. En tant que chef de la majorité, elle a une grande part de responsabilité. Question toute simple, est-ce qu'elle peut rester à Matignon ?
Elle peut, mais pour être cash, on voit mal comment, tant la situation semble intenable. La première ministre est marquée à gauche et aujourd'hui, je vous le disais, la seule solution pour le camp de la majorité présidentielle est d'essayer de composer avec la droite. Son profil ne semble plus en adéquation, d'autant plus qu'elle est critiquée en interne. Manque de leadership, d'empathie, elle est clairement menacée. Alors dans les faits, Romain, ne soyez pas surpris, Elisabeth Borne va remettre sa démission et celle de son gouvernement dans les prochaines heures. C'est la tradition républicaine après des élections législatives, c'est une démission de courtoisie. Plusieurs proches du président expliquent pour le moment qu'elle devrait être renommée dans la foulée. La question qui se pose maintenant, c'est pour combien de temps ? Hors micro, un ministre le concède. Avec les résultats d'hier soir, il n'est pas sûr du tout que Borne ait une longévité supérieure à Edith Cresson. Cresson qui tient le record de brièveté à Matignon, 10 mois et 18 jours.
Merci beaucoup Jacques Serret, symbole de la désillusion chez les macronistes. De grandes figures sont tombées hier. Les ministres Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon, Justine Bénin ont perdu dans leurs circonscriptions respectives et vont devoir démissionner du gouvernement. Richard Ferrand, marcheur historique qui était le président sortant de l'Assemblée nationale, n'a pas été réélu dans son fief du Finistère face au candidat de la NUPES. Battu également, l'ancien ministre de l'Intérieur et chef des députés La République En Marche, Christophe Castaner, lui aussi, a perdu contre un membre de l'Union de la Gauche. Il s'appelle Léo Alter, il est directeur d'école dans les Alpes-de-Haute-Provence. Écoutez sa réaction.
Il est évident que Christophe Castaner en 2022 n'est pas le Christophe Castaner de 2017, qui était à l'époque porté par la dynamique d'Emmanuel Macron, qui était encore auréolé ici de son rôle de maire de Fort-Calquier, de vice-président de région, et qui était le tout jeune ministre d'un tout jeune gouvernement qui promettait aux Français de n'être ni de droite ni de gauche. Au bout de 5 ans, on sait une chose, c'est qu'il n'était ni de gauche ni de gauche et qu'il a mené une politique de droite pendant 5 ans. Au-delà des politiques libérales que nous dénoncions dès 2017, il a mené des politiques autoritaires. Et comme nous sommes dans un département où le mouvement des Gilets jaunes a été très puissant, mais également le mouvement de contestation de la réforme des retraites de 2019, également les mouvements, les manifestations contre les lois liberticides de l'été dernier, il est évident qu'une part du résultat de ce soir vient de la sanction très claire qu'ont imposée les électeurs et les électrices à ce Christophe Castaner-là.
Léo Valter, le tombeur de Christophe Castaner aux législatives dans les Alpes de Haute-Provence, au micro européen de Frédéric Michel. La grande surprise de ce scrutin, c'est le gros succès du Rassemblement national. Le parti fait entrer 89 députés à l'Assemblée. Ils étaient 8 seulement ces 5 dernières années. Percée historique pour le RN, qui constitue le groupe d'opposition le plus important. Victor Chabert, en direct de l'Assemblée, avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Au vu des résultats, Marine Le Pen revendique 2 postes clés à l'Assemblée, au Palais Bourbon.
Oui, et Marine Le Pen l'a martelé depuis son fief d'Hénin-Beaumont ce matin.
Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit, tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr.
Alors plusieurs raisons expliquent ce score historique, même si au RN ils sont eux-mêmes surpris de ce si grand nombre de députés élus. Tout d'abord, le parti à la flamme a su garder ses électeurs mobilisés. C'est d'ailleurs un des arguments que n'ont répété les cadres et les candidats sur le terrain. Ils ne comprenaient pas de tels écarts entre la mobilisation qu'ils ressentaient sur leur territoire et les projections dans les sondages. Ensuite, le RN confirme son ancrage territorial en PACA dans l'ex-Languedoc-Roussillon dans le nord, mais il fait aussi des percées dans l'Est et la Nouvelle-Aquitaine. Le RN peut également remercier la NUPES. Il semble que les candidats RN aient fait moins peur que les candidats insoumis. C'est un cap très important franchi dans la normalisation. Enfin, cette victoire est aussi une victoire personnelle pour Marine Le Pen. Sa stratégie lors de ces élections législatives a été parfois critiquée, accusée d'être en demi-teinte, sans bruit, parfois même absente. Eh bien, cela a encore été payant. Le calme des vieilles troupes, comme elle le dit elle-même, s'est avéré efficace. Marine Le Pen qui a confirmé officiellement qu'elle prendrait la tête de ce grand groupe RN à l'Assemblée nationale et qu'elle laissait la présidence du parti.
Victor Chabert, merci beaucoup Victor. À gauche, 137 députés sont élus sous la bannière de la NUPES. Parmi eux, la grande majorité siégera dans le groupe LFI, la France Insoumise. Il y a 55 députés LFI supplémentaires par rapport à la dernière législature. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari en créant cette grande union de la gauche pour les législatives ?
Eh bien, on peut dire qu'il est en partie réussi. Certes, la gauche va peser beaucoup plus que ces 5 dernières années. Mais 2 des objectifs prioritaires de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas remplis. Il n'ira pas à Matignon, faute de majorité, et il n'est pas à la tête du premier groupe parlementaire d'opposition. Pour autant, l'insoumis estime, lui, avoir rempli son objectif. Et à l'écouter, c'est déjà la fin du règne d'Emmanuel Macron.
Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelons-le, ne se présentait pas à ces élections législatives, il a précisé hier soir qu'il n'allait pas pour autant prendre sa retraite, mais bien continuer le combat. Et il aura certainement beaucoup à faire, car la question de l'avenir de la NUPES à court et moyen terme est posée. L'union de la gauche va-t-elle se disloquer ou bien au contraire, celle-ci va-t-elle se pérenniser dans le temps ? Pour l'instant, rien n'est acquis, d'autant que certains de ses membres n'ont jamais donné l'impression de jouer pleinement le jeu de l'alliance. C'est le cas, par exemple, du patron du Parti communiste, Fabien Roussel, qui désire hier soir a pointé les limites de la NUPES en soulignant qu'elle a permis à la gauche de progresser en nombre de députés, mais pas en nombre de voix. L'ancien candidat à la présidentielle ajoute par ailleurs, je cite, qu'elle ne parle qu'à une partie de la France, celle des villes, et non à celle de la ruralité.
Arthur Delaborde, merci beaucoup Arthur. Du côté des Républicains, à présent, la situation est un peu paradoxale. Si le parti de droite n'obtient que 64 députés, une trentaine de moins qu'en 2017, le rôle que va jouer LR dans les 5 prochaines années pourrait être malgré tout assez important. En effet, Emmanuel Macron, privé de majorité absolue, pourrait avoir besoin des voix des élus LR pour faire passer certaines réformes. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Au sein du parti, la grande majorité des députés LR élus ou réélus hier soir le sont quand même, il faut le dire, sur une ligne étanche au macronisme. Hein.
Oui, il n'y a qu'à voir le profil et les déclarations passées des principales figures du parti élu hier soir. Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, Aurélien Pradier dans le Lot, Pierre-Henri Dumont dans le Pas-de-Calais. Aucune concession possible avec Emmanuel Macron, disent-ils. Position partagée par les 19 députés élus en Auvergne-Rhône-Alpes, région de Laurent Wauquiez, figure de la droite franchement hostile au chef de l'État. Seul Jean-François Copé a plaidé hier soir pour un pacte de gouvernement avec le locataire de l'Élysée. Pas vraiment du goût de Christian Jacob, le président du parti.
Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Les choses sont très claires.
C'est la position majoritaire au sein du parti, parce
que c'est la position du parti.
Jean-François Copé prône un pacte de gouvernement.
Jean-François Copé parle à titre personnel.
Voilà qui a le mérite d'être clair. Reste à observer ce que feront les députés LR lors du vote des principales réformes voulues par Emmanuel Macron et qui étaient aussi dans le programme de Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. La réforme des retraites à 65 ans par exemple. LR va donc peser dans la prochaine assemblée et malgré la perte conséquente de députés hier soir, les cadres du parti étaient plutôt soulagés.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. Les députés fraîchement élus ou réélus ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale dès ce matin. Ils prennent possession de leur bureau, peuvent enfiler bien sûr la fameuse écharpe tricolore. La première séance publique aura lieu le 28 juin prochain. Alexis de la Fontaine avec nous. Bonjour Alexis, en direct de l'Assemblée. Avant la première séance publique, il y a tout un processus d'intégration prévu pour les nouveaux élus, hein ?
Oui, les députés qui entrent par la grande porte depuis ce matin ont le droit à une visite guidée de l'Assemblée nationale, puis ils prennent possession de leur mallette parlementaire avec la fameuse écharpe de député, comme Violette Spilbou, députée de la majorité présidentielle du Nord, qui fait ses premiers pas.
On a la chance d'être accueillis par ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Assemblée, par la vice-présidente du groupe. Et puis on va faire nos premiers pas dans l'Assemblée avec quelques collègues comme Maud Brejon, que je connais aussi, et qui vont nous aider à nous inscrire dans les bonnes commissions et puis à être très vite au travail.
Mais pour cela, les députés doivent s'inscrire dans un groupe parlementaire et ils ont jusqu'au 28 juin. Alors une guerre souterraine est en train de se jouer entre le RN, qui se revendique premier groupe d'opposition avec 89 députés, et la France Insoumise avec 75 députés, mais qui a encore une semaine pour attirer de nouveaux députés dans son groupe. C'est tout l'enjeu des Insoumis, espérer détrôner le Rassemblement National au Palais Bourbon. Enfin, le 29 juin, les postes clés de l'Assemblée seront attribués avec la fameuse Commission des finances, qui revient normalement au premier groupe d'opposition. Pour terminer, si Elisabeth Borne est encore en poste, elle doit prononcer son discours de politique générale le 4 juillet.
Merci beaucoup Alexis de la Fontaine en direct de l'Assemblée nationale. Voilà, on va continuer à parler évidemment de ce résultat aux airs de séisme, résultat aux élections législatives. On en parle avec vous au 39-21 et avec Antoine Léaumont, tout nouveau député de la NUPES, et avec Prisca Thévenot qui a été réélu député LREM. Prisca Thévenot qui est porte-parole de...
J'ai été élu par réélu,
autant pour moi. Élu député LREM. Voilà, deux députés fraîchement élus. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va partir dans le Donbass. La guerre en Ukraine continue, les combats continuent. On va rejoindre notre correspondant, notre envoyé spécial, l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass, Nicolas Tonnef. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 15, la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky dit s'attendre à une intensification des attaques dans l'est et le sud du pays cette semaine, notamment dans le Donbass où les Ukrainiens tentent d'empêcher les Russes d'atteindre la ville clé de Kramatorsk. À une cinquantaine de kilomètres de là, l'armée ukrainienne essaye de repousser l'ennemi sur la route qui relie les villes de Bakhmout et de Kramatorsk. Les combats et les bombardements sont permanent, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass, Nicolas Tonnef.
Bakhmout, le fracas des départs d'artillerie, mais aussi le sifflement et l'explosion des arrivées. Les Russes se rapprochent. Sur la route de Lysychansk, un bruit sourd, une fumée noire, il faut laisser passer. Un premier T-72 arrache le bitume. C'est une colonne de chars. Il fonce vers le front. Les monstres s'éloignent. À l'arrière, un tout jeune homme en t-shirt et bob kaki sur la tête. Le sous-lieutenant Mikita, 21 ans, diplômé de son école militaire l'an dernier.
Ce sont mes hommes. Je suis officier commandant en second de la compagnie des tanks. Près du village de Berestova, l'ennemi a cassé notre ligne de défense. Donc avec mes tanks, on part défendre cette ligne car on essaye de sauver la route entre Lysychansk, Severodonetsk et Bakhmut. Si l'ennemi prend cette route, ça sera la merde pour nous.
Ça l'est déjà en fait. Une ambulance militaire arrive, le conducteur déverse sa colère et sa détresse sur Mikita et moi.
Ne donnez aucune information. Nos gars meurent. Je transporte des blessés là.
Tu évacues ?
Oui, j'évacue.
Le jeune officier ne cache plus son désarroi.
Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de soldats blessés. C'est très difficile pour le moral. C'est vraiment comme une grosse merde.
Signe de l'importance de la bataille à venir, des chars arrivent encore depuis Kramatorsk. Entre Sévierske et Barmout, dans le Donbass, Nicolas Tonev, Europe 1.
Nicolas Tonev qui nous informe ce matin que les forces ukrainiennes sont parvenues à repousser l'attaque russe cette nuit. Information de Nicolas, envoyé spécial donc Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass. L'édition 2022 du bac continue avec les sessions du Grand Oral qui démarrent ce lundi pour près de 500 000 terminales en filière générale et technologique jusqu'au 1er juillet. Cette épreuve introduite en 2019 a été testée pour la première fois l'année dernière. Et cet examen qui représente 10% de la note finale fait angoisser nombre d'élèves, notamment parce que l'oral est peu valorisé et travaillé en classe. À l'inverse, dans d'autres pays, l'éloquence, Louise Salé, bonjour.
Bonjour Romain.
Dans d'autres pays, l'éloquence prend une place plus importante dans les programmes. Hein.
Oui, exactement. En France, dès les petites classes, c'est le professeur qui parle et les élèves qui écrivent. Et pour les prises de parole lors de débats ou exposés, c'est en fait le fond qui compte plus que la forme. Sylvie Plane est professeure en sciences du langage à l'université.
Ce qui est demandé au grand oral, c'est davantage des capacités de prestance, positionnement physique, il y a un côté un petit peu théâtral. Les élèves ne sont pas entraînés à cela.
Le grand oral nous vient en fait d'Italie, où depuis les années 60, il représente un tiers du bac. C'est une épreuve soigneusement préparée dans le secondaire par des oraux individuels très réguliers. Le coach vocal Jean Sommer déplore le retard des Français.
Les Italiens sont beaucoup plus extravertis physiquement que les Français, on le voit, puisqu'ils font des gestes, etc. Notre langue, on l'a valorisée en silence. Le fait de parler devant les autres, il y a quelque chose d'impudique. Dans les pays anglo-saxons, l'oral prime sur l'écrit. C'est non seulement se faire entendre, mais c'est également se vendre, se faire applaudir. C'est une prise de pouvoir.
Au Royaume-Uni, par exemple, dès 5 ans, chaque Britannique s'exprime tous les jours devant sa classe sur n'importe quel sujet. Il présente un objet, il doit raconter une histoire autour, ça s'appelle le show and tell, montre et raconte. En Suisse et au Québec, enfin, les élèves ont des heures de cours entièrement dédiées aux techniques de l'art oratoire, et ce, dès le primaire.
Merci beaucoup Louise Salé. C'est vrai que c'est difficile de parler en public. Les nouveaux députés vont devoir s'y faire. Hein. Il va falloir parler en public dans l'Assemblée nationale devant 576 collègues. Allez, merci beaucoup Louise. Midi 19, la météo avec vous Anissa Haddadi avec de nouvelles vigilances.
Hein. Et oui, on n'en a pas fini avec la chaleur et les orages. Romain, 21 départements sont placés en vigilance orange. Alors toute la journée, on a 11 départements entre l'Auvergne, le Jura, le Cantal et la Drôme en vigilance orange. Canicule, il va faire chaud. Hein. 36 à Lyon, 35 à Grenoble, 34 à Saint-Etienne, 32 à Clermont-Ferrand, 30 à Aurillac. Ailleurs, on respire mieux avec 26 degrés à Nantes, 23 à Paris et 18 pour Cherbourg. L'après-midi sera plus lumineuse et ensoleillée que la matinée, mais attention, ce soir, à partir de 21h, 10 nouveaux départements entrent en vigilance orange. Orage, cette fois-ci, c'est entre la Gironde et la Corrèze que ça se passe dans le sud-ouest et ça risque d'être violent par endroits avec de la grêle, de forts coups de vent et pas mal d'eau.
Anissa Haddadi, merci beaucoup Anissa. Il est midi 20, restez bien avec nous, on va parler ensemble de ces résultats des élections législatives. On est avec vous au 39-21 et avec deux nouveaux députés, Prisca Thévenot, nouvelle députée LREM et avec Antoine Léaumont, nouveau député NUPES LFI. A tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
Certains ont la gueule de bois, d'autres les grands sourires des lendemains de victoire. Le paysage politique français est bouleversé ce matin. Le pays risque le blocage. La majorité relative de LREM va l'obliger à s'allier au cas par cas, probablement avec la droite ou avec la gauche. Qu'en pensez-vous de ces résultats? Vous appelez le 39-21 et vous passez à l'antenne. On est avec Prisca Thévenot, nouvelle députée LREM des Hauts-de-Seine, et Antoine Léaumont, nouveau député LFI NUPES de l'Essonne. Merci à tous les deux d'être avec nous. Déjà, en quelques mots, comment est-ce que vous qualifiez les résultats de ces législatives, Prisca Thévenot?
Eh bien, effectivement, les résultats pour la majorité ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions. Nous avons une majorité relative. Maintenant, l'enjeu que nous avons, c'est bien évidemment d'agir pour le pays. Car oui, c'est ce que les Français attendent. Après des semaines, des mois de campagne, je parle bien évidemment de la campagne des législatives, mais aussi de la campagne des présidentielles, nous devons maintenant être prêts à travailler autour d'un débat, mais autour d'un socle commun, et notamment... Un des premiers objectifs sur lesquels nous devons nous réunir, c'est le sujet du pouvoir d'achat. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu aussi est de savoir ce que vont faire les forces d'opposition, qui sont des forces d'opposition d'extrême, si bien l'extrême gauche que l'extrême droite, avec la confiance que leur ont accordée hier soir les Françaises et les Français dans les différentes circonscriptions de France. Et c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui.
Antoine Léaumont,
MPSC. Oui, c'est un résultat qui est une claque, je pense, électorale pour la Macronie. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République depuis qu'il y a ces élections. Vous savez, le quinquennat qui est collé aux élections législatives, c'est la première fois qu'un président n'obtient pas de majorité absolue. Donc on entre dans une ère nouvelle. Maintenant, j'entends beaucoup une petite musique qui dirait que le Rassemblement National est le premier parti d'opposition, etc. etc. Faut pas oublier que c'est la NUP. Qui est arrivé
c'est pas
au
un
final.
Parti,
c'est pas un parti. Ce n'est pas un parti, effectivement. Mais
donc
c'est
le premier parti, c'est le RN.
Ensemble non plus n'est pas un parti politique, si vous voulez.
Oui, non, mais le RN, c'est un parti.
Le RN est un parti, effectivement. Mmh. Mais à l'Assemblée nationale, par exemple, si on parle de la Commission des finances, qui est un des sujets, la présidence de la Commission des finances, la règle est que les députés de la majorité ne participent pas au vote. Donc dans le résultat, il est assez évident qu'en réalité, ça sera... un élu de la NUPES qui devrait être président de la Commission des Finances ou présidente de la Commission des Finances.
Vous voulez déjà revoir les règles ?
Non, justement, je les applique. Enfin, j'applique les règles classiques. On verra si les macronistes continuent avec ces règles-là. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition. Nous avons, nous, un programme et des mesures à proposer. On parlait du pouvoir d'achat, blocage des prix, augmentation du SMIC, augmentation des
retraites. On va évidemment
tout ça, c'est des mesures qui peuvent être mises en place.
Parler de tout ça. Philippe nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Philippe, vous avez 56 ans, dirigeant de société d'avocats et notaires. Vous dites, le résultat des législatives, c'est une défaite pour l'avenir du pays ?
C'est en tout cas un signal négatif que nous envoyons à l'échelle européenne, et à ce titre, j'ai une inquiétude, vraie inquiétude sur l'avenir. Alors, je sais que le président que j'ai soutenu pendant tout ce premier mandat trouvera peut-être les solutions et saura déterminer les meilleures voies pour agir, et notamment, Prisca Thévenot le disait sur le pouvoir d'achat. Moi, je crains en tout cas qu'on ait bien au-delà aujourd'hui du message sur le dépassement des clivages gauche-droite. On est dans une hypothèse qui me paraît pas viable et durable. Le président devra et le gouvernement devront faire un jour appel aux élus de la NUPES, un jour appel aux élus de LR, et pourquoi pas, disait M. Dupond-Moretti, un jour faire appel aux élus du Rassemblement National sur des questions de budget, justice par exemple. Moi,
Philippe,
je crois que cette situation ne va pas pouvoir durer.
Ça va pas durer.
Et elle est un très mauvais signal, à mon sens, à l'échelle européenne, puisqu'on montre un pays fragmenté, ingouvernable. On aurait tous préféré, à la limite, presque une cohabitation pure et dure. Mais un Parlement qui, aujourd'hui, est dans cet état et de difficulté de gouvernance, c'est pas très positif sur tous les enjeux de demain, sur l'environnement, sur la défense, sur la santé, sur le régalien, toutes ces questions qui sont au cœur de l'actualité et dont les Français d'ailleurs nous rendent un peu responsables. Hein, parce que
Philippe,
on est...
vous savez ce qu'on va faire, je vous propose, il est midi 28, on va faire la publicité, il va y avoir le flash, restez avec nous s'il vous plaît, et on vous retrouve juste après, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, merci d'être avec nous. Le débat continue bien sûr dans un instant, mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dèze. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. C'est le scénario cauchemar. La coalition présidentielle n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée et va donc devoir composer pour éviter la paralysie. Le gouvernement est, quoi qu'il arrive, déjà promis à un remaniement. Trois ministres ont été battus et vont donc devoir laisser leur portefeuille. Avec 89 députés, le RN se revendique premier parti de l'opposition et réclame donc la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le RN qui va définitivement changer de président. Marine Le Pen annonce qu'elle va se consacrer à son groupe, à l'Assemblée. Dernière ligne droite pour les 700 000 candidats au bac avec le début du grand oral. Aujourd'hui, ils ont 20 minutes pour convaincre les examinateurs. 20 minutes qui correspondent à 10% de la note. Au 118e jour de la guerre en Ukraine, les bombardements s'intensifient dans la région de Kharkiv et de Donetsk. À Severodonetsk, ville clé du Donbass, les Russes contrôlent la plupart des quartiers résidentiels, soit près des deux tiers de la ville. L'Ukraine, qui s'attendait à ce que Moscou intensifie ses attaques avant le sommet des 27 jeudi, est la réponse de l'UE sur le statut de candidat de l'Ukraine. En France, 21 départements de l'Ouest et du Centre-Est sont toujours placés en vigilance orange. Aux orages à l'Ouest, alerte canicule au Centre-Est. Et puis, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont faire une pause d'une année. Les champions olympiques de danse sur glace ne prendront part à aucune compétition. Ils préfèrent se consacrer au spectacle et aux tournées de gala.
Émilie Dèze, merci Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Les macronistes n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va falloir donc créer des alliances, probablement de circonstances, pour des textes. On est en direct avec Philippe, qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Merci d'être resté avec nous, Philippe. Et puis on est avec Antoine Léaumont, qui vient d'être élu député de l'Essonne, NUPES LFI, et avec Prisca Thévenot, qui vient d'être élu député LREM des Hauts-de-Seine. Philippe, en clair, vous nous dites combien de temps ça va durer, et vous pensez que ça ne va pas pouvoir durer pendant tout un mandat, pendant 5 ans?
Moi, je ne me suis pas engagé auprès d'Emmanuel Macron en 2016 et faire partie de cette première équipe de soutien et notamment dans cette région si difficile des Alpes-Maritimes pour aujourd'hui me dire que sur tel projet, on va demander un appui de NUPES qui rejette l'Europe, veut sortir de l'OTAN, nous tient des propos absolument iniques sur la fiscalité demain, des entreprises, la suppression de la flat tax, l'augmentation des droits de succession. Je n'ai pas vocation, moi, à continuer à m'engager dans une aventure qui verrait un gouvernement prendre un peu à gauche, un peu à droite. Non, ce que je pense,
de toute façon, il faudra prendre un peu à droite ou un peu à gauche, hein, parce que LREM n'a pas la majorité. Donc,
c'était la promesse de Macron.
Écoutez, il est trop tôt, en tout cas, pour faire le bilan. Et bien sûr, d'autres analyses, d'autres commentaires devront être faits. Mais hier, l'appel de Jean-François Copé, qui était probablement prématuré, mais qui demandait...
Il y avait une coalition de gouvernement.
Aux députés LR de réfléchir à une éventualité de coalition, en effet, de gouvernement, me paraît en tout cas devoir être étudié. Je ne dis pas qu'on va forcément aboutir à cette solution-là, mais il doit y avoir des républicains aujourd'hui, des députés, les républicains, qui sont des gens responsables, qui comprennent que l'avenir de notre pays est en jeu, à l'heure où l'inflation est galopante, les taux d'intérêt risquent d'exploser, la guerre en Ukraine nous fragilise. Je ne peux pas imaginer 5 secondes que nous ne trouvions pas des gens, des personnalités politiques au sein du groupe Les Républicains qui n'aient pas le désir de construire une gouvernance harmonieuse entre la majorité présidentielle et eux-mêmes. Quelles sont les valeurs qui nous séparent aujourd'hui des Républicains ? Mais sincèrement, le pays est à droite. Si on regarde bien l'analyse aujourd'hui du scrutin, et je pense que personne ne pourra dire l'inverse, avec les électeurs qui ont voté Rassemblement National par dépit et qui sont, à mon sens, pour certains, des citoyens de droite modérés, les Républicains...
Bon, donc, vous défendez des alliances plutôt à droite. Plutôt à droite. Il y a Antoine...
Je défends des alliances à droite parce que je pense qu'on peut trouver au centre-gauche des personnalités politiques qui ont intégré le mouvement d'Emmanuel Macron et qui sont aujourd'hui des ardents défenseurs de l'entreprise.
Antoine Léaumont vous répond.
Oui, j'ai un point d'accord avec Philippe, en réalité. Il y a, même si nous sommes séparés par nos opinions politiques, J'ai un point d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui sont irréconciliables. Nous, ce que nous proposons avec la NUPES, c'est un changement de paradigme en réalité. C'est un changement de système qui est global. On ne peut pas faire notre programme en acceptant de rester dans les règles du capitalisme. Et vous l'avez dit, enfin, vous l'avez dit d'une manière un peu caricaturale en disant que nous rejetons l'Europe. Nous ne rejetons pas l'Europe. Nous avons juste un problème avec les règles européennes qui sont contradictoires avec notre programme. Par la force des choses, nous appliquerons notre programme, nous appliquerions notre programme, quelles que soient les règles européennes, puisque ça aurait été le peuple qui aurait tranché dans ce sens-là. C'est pas ce qui s'est passé. Mais néanmoins, il y a effectivement une incompatibilité entre nos mesures, qui sont des mesures d'ensemble, qui sont pensées dans un programme d'ensemble, et le cas par cas qui va être fait par la Macronie à l'intérieur du système capitaliste. Donc il y a effectivement ce point-là, mais quand vous dites le pays est à droite, mais là oui, pour le coup,
le système capitaliste,
je ne suis pas d'accord.
Vous pensez que la France est capitaliste
Capitaliste, libéral, si vous voulez.
Mais la France est un pays libéral?
Oui, bah clairement, la France est un pays libéral.
Par exemple, France qui a le RSA, la France qui a la sécurité sociale, la France qui a les allocations familiales, la France qui
subsiste
l'école gratuite. L'école gratuite, c'est un pays libéral pour vous.
Il subsiste des éléments de l'État qui viennent du passé, mais que petit à petit, les pouvoirs politiques successifs ont essayé de miner. L'héritage du Conseil national de la résistance est petit à petit grappillé par des politiques libérales.
Enfin, on n'est plus en 1946,
tout à fait, mais
vous le savez, fait, vous qui êtes un
mais
jeune
mais encore, voilà. on est encore en train de débattre justement de la retraite, par exemple.
Je me permets, justement, c'est un très bon sujet, monsieur Léaumont. Oui, notre système de solidarité, dont fait partie notre retraite, est un trésor. Et nous avons la responsabilité, je vous ai écouté, monsieur Léaumont, très sagement, et nous avons la responsabilité de regarder cela sans naïveté et d'agir pour le pérenniser, pour le conserver, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais en fait, ce qui se passe, et je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, la question est de savoir quelle va être aujourd'hui la place de la NUPES dans cette Assemblée nationale. Est-ce qu'il va s'agir d'agir justement pour la France, avec un débat nuancé, très fort sûrement, ou de continuer à agiter pour un seul homme, qui est Jean-Luc Mélenchon? Parce que ce que j'entends depuis hier soir de la part de l'ensemble des représentants de la NUPES sur les différents plateaux, c'est cette perpétuelle quête de victoire, mais de victoire pour vous, pour cet homme-là. Mmh. Il n'a pas été élu président de la République, il est arrivé troisième. Il ne sera pas Premier ministre, il n'a pas obtenu de majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. Il n'est pas député puisqu'il ne s'est même pas lui-même présenté à l'élection législative. Donc aujourd'hui, oui, monsieur Léaumont, je suis d'accord avec vous, il faut un changement de paradigme. Mais pour cela, commencez par vous l'imposer. Peut-être, et je dis bien peut-être, à vous-même. Acceptez aussi que oui, nous ne sommes pas d'accord sur tout, et il y a des lignes rouges sur lesquelles nous n'arriverons pas à franchir. Typiquement sur le respect de nos forces de l'ordre, typiquement sur le respect et l'indépendance de nos médias, sur le respect que nous devons à notre système de justice, nous n'aurons pas de point d'accord. Mais si nous arrivons à trouver des points d'accord sur certaines urgences, notamment sur celle du pouvoir d'achat, alors faisons-le, non pas pour Jean-Luc Mélenchon, enfin, s'il vous plaît, comprenez qu'il s'agit des Français.
Je vais vous répondre si ça vous va sur les divers points que vous avez évoqués. D'abord, pérenniser le système de la retraite, c'est faire en sorte que les gens aient la retraite au niveau le plus tôt possible. Quand vous dites que vous voulez faire le plein emploi, je vous dis, le plein emploi, ça finance la retraite à 60 ans. Donc, soit vous ne croyez pas au fait que vous allez faire le plein emploi, soit il y a une arnaque quelque part. Par ailleurs, vous dites nous sommes dans une quête de victoire pour un homme. Ce n'est pas le cas. Jean-Luc Mélenchon a porté dans l'élection présidentielle un programme, et comme candidat à la primature, c'est comme ça que ça s'appelle, Premier ministre primature, il a porté un programme partagé de gouvernement de la NUPES.
Et il a perdu.
Donc, il a perdu, effectivement. Voilà. Mais ça nous, on n'a pas de problème avec le résultat des urnes. On est tout à fait capable de reconnaître le fait que nous sommes la première force d'opposition, mais pas la majorité. On s'en est rendu compte, merci beaucoup. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que notre programme est un programme d'ensemble. Effectivement, il y a des oppositions. Après, ça me fait un peu rigoler qu'on parle
sur le sujet du prix du carburant, quelle est votre position? Parce que Mme Sandrine Rousseau est pour augmenter le prix du carburant, et vous êtes à la LFI pour le baisser. Quelle est votre position, du coup, en tant que NUPES?
Notre position est celle du programme de la NUP, qui est le blocage des prix.
Alors, Sandrine Rousseau, quelle est sa position? Elle fait partie de la NUPES.
Le blocage des prix. Mais alors, vous avez peut-être pas.
Il y a quelques semaines, écoutez ce qu'elle dit.
Vous avez peut-être pas regardé, mais dans le programme de la NUP, il y a ce qu'on a appelé des points de désaccord. On a listé les points sur lesquels.
Là, c'est le grand écart.
Sur lesquels certains pourraient voter différemment. Maintenant, nous sommes pour le blocage des prix. Je veux juste dire une petite chose, mais parler de l'indépendance des médias dans un pays où les médias sont détenus par 9 milliardaires, ça me fait doucement rigoler.
Ah bon, France Télévisions, et puis, c'est-à-dire, je comprends pas.
Médias,
et donc,
par exemple, sur
et donc
Europe
les journalistes sont pas libres, moi je suis quelqu'un de pas libre.
Allez
au bout de ce que vous pensez.
Non, je pense effectivement que dans les médias, il y a une manière de présenter les sujets. Je pense par exemple à une chaîne comme CNews. Une chaîne comme CNews, on a eu sans arrêt, des débats qui poussent, qui aident l'extrême droite. Et vous
quand
en
j'ai
discutez,
reçu, allez, ah bon
vous en discutez.
Tout le monde est invité sur une chaîne que je connais bien. Tout le monde est invité sur cette chaîne. Alors franchement, vous êtes malvenu.
Non, justement.
C'est pas très élégant. Et Petit Loup, c'est totalement faux.
Justement, moi, pour participer assez souvent à des débats sur CNews également, et c'est vrai que tout le monde est invité, la manière, les thèmes qui sont portés, les sujets qui sont portés, sont rarement ceux qui intéressent
de
près les Français.
Vous êtes gêné par la liberté de la presse, vous voulez choisir les thèmes de débat.
Précisément, la France est critiquée pour son manque d'indépendance de la presse vis-à-vis.
Jean-Luc Mélenchon est invité sur Europe 1, il vient pas.
Il a parfaitement le droit de ne pas souhaiter se rendre sur une chaîne. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas moi qui le dis ça. C'est Reporters sans frontières qui classe notre pays à la, je crois, 38e place, quelque chose comme ça, en tout cas dans les 30e places, pour cette raison-là. Et quand vous parlez d'indépendance des médias, effectivement, nous avons un désaccord sur ce point. Moi, je pense
les journalistes sont
tout à fait libres et honnêtes, mais je pense que le système médiatique serait plus utile pour l'information des citoyens si on empêchait la concentration des médias dans les mains de quelques personnes.
Le premier parti d'opposition est désormais le Rassemblement National. 89 députés RN. Marine Le Pen sera la présidente du groupe RN et elle va quitter la présidence du parti. Qu'est-ce que vous attendez, tiens, des députés RN? On va en parler dans un instant, juste après la pub. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
12h46, le paysage politique français est totalement bouleversé. Je vous le disais juste avant la petite pause, c'est désormais le RN qui est le premier parti d'opposition. 89 députés RN. Comment expliquez-vous ce score historique du RN, tous les deux, Antoine Léaumont et Prisca Thévenot?
Écoutez, je ne vais pas dire que je sois satisfaite de ce résultat, mais il est là et je le respecte. Maintenant, soyons très clairs, il s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'a été les élections présidentielles. Parce que oui, Emmanuel Macron a été élu président de la République, mais Marine Le Pen est arrivée deuxième de cette élection des présidentielles. Et donc, quelque part, peut-être que les Français ont du coup permis d'avoir une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, moi, ce que j'attends, c'est plutôt qu'on puisse voir comment cela va se dérouler à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas là pour refaire les élections, mais pour les respecter. Et ce que j'attends peut-être du Rassemblement national, c'est notamment qu'il puisse siéger pleinement, non seulement dans l'hémicycle, mais aussi peut-être là où c'est moins visible, dans les commissions. Parce que c'est aussi là que se passe le travail parlementaire. Le travail parlementaire dont nous avons besoin et qui... peut-être se défait un peu du spectacle médiatique auquel on a plus l'habitude de voir. Je pense que nous avons besoin demain d'un débat de fond plus que de disputes de partisans.
Antoine Léaumont,
peut-être
c'est le premier parti d'opposition déjà, ça vous ne contestez pas?
Non, c'est pas le cas. Le premier mouvement d'opposition, c'est la NUPES. Alors, si on veut jouer sur il y a des partis, machin, etc. à l'intérieur de la NUPES, on peut.
Bah c'est pas un détail.
Mais la réalité est que la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, elle n'est pas à l'extrême droite, elle est à gauche. Et avec 130 députés officiels, parce qu'en réalité nous avons plus que ça, puisqu'il y a des qualifications du ministère de l'Intérieur en divers gauches, etc., qui en réalité sont des députés NUPES. Donc on est plutôt autour de 150 députés NUPES que le chiffre qui est donné. Donc nous sommes la première force d'opposition. Maintenant, votre question de départ était comment on en arrive à cette situation-là. Pour moi, les macronistes ont joué avec le feu. Et en particulier dans cette campagne législative, ils n'ont cessé de cibler les candidats de la NUPES. Et ils sont même allés jusqu'à, dans certaines circonscriptions, où on avait des deuxièmes tours entre la NUPES et le Rassemblement National, il y en avait 62 très exactement, il y a dans seulement 7 cas, les candidats LREM ont appelé à battre le Rassemblement National. Je trouve que des gens qui nous font sans arrêt des leçons de République et qui ne sont pas capables d'envoyer un message clair en disant qu'il faut battre l'extrême droite, pose quand même un gros problème pour le pays.
Non,
et pour moi, c'est une responsabilité historique, morale, extrêmement grave pour la Macronie.
Le message est très clair et nous avons été extrêmement clairs. Pas une seule voix au Rassemblement National. Maintenant, est-ce que ça veut dire donner un blanc-seing à tous les candidats LFI qui se sont présentés. Absolument pas. Moi, je n'appellerai jamais
vous
à voter.
Vous voteriez quoi, personnellement? Personnellement, vous voteriez
déjà, vous
pour
me laisser finir ma phrase, vous allez comprendre. D'accord, mais répondez. Vous allez comprendre. Empêcher les autres de parler, ce n'est pas ça le débat. Donc, moi, je vais être très claire, je n'appellerai jamais à voter pour quelqu'un qui dit que, oui, la police tue, pour quelqu'un qui explique, comme vous venez de le faire tout à l'heure, que nos journalistes ne sont pas indépendants
pas
en
dit
France.
Ça.
Pour quelqu'un, vous l'avez dit, assumez-le, c'est important.
J'ai dit que les médias n'étaient pas indépendants.
Oui, c'est vrai que les médias sont faits de nébuleuses. Ils sont faits de journalistes. Mm-hmm. Donc ensuite, je n'appellerai jamais à appeler à voter pour quelqu'un qui veut mettre la justice au pas. Ça, c'est très clair.
Et ça, c'est Alliance. C'est Alliance Police qui veut mettre la justice au pas.
Monsieur, assumez qui vous êtes. Arrêtez de faire de la rhétorique.
Non,
Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même votre maître à penser. Et il est très, pour le coup, lui. Il est honnête sur sa démarche, il l'assume.
Mettre
assumez-le,
la justice au pas,
ou alors changer de groupe parlementaire.
Je veux bien que vous me disiez à quel moment on a dit qu'on voulait mettre la justice au pas.
Il a mis en permanence en cause la parole de la justice.
Non.
En permanence.
Donnez-nous un exemple très précis.
Écoutez, franchement,
donnez-nous un exemple très précis.
Si vous êtes gêné, ce n'est pas de ma faute.
Mais moi, je ne suis pas gêné. Je vous demande un exemple très précis. Vous êtes incapable de m'en donner un.
Je vous dis très clairement que nous n'appellerons pas à voter et nous n'avons pas appelé à voter pour des gens qui pointent du doigt la police en permanence.
Ça va être compliqué de voter avec la NUPES.
Alors justement, je pense que c'est ça qui est important. Vous dites la NUPES. Moi, je suis d'accord. Mais la NUPES, c'était l'étiquette sous laquelle, effectivement, il y a des personnes qui se sont présentées pour les élections législatives. Mais soyons très clairs, et d'ailleurs, vous l'avez dit pendant toute cette campagne des législatives.
Ce sont quatre formations, partis politiques.
Exactement. Et déjà, nous voyons que sur un certain nombre de sujets, ils ne sont pas d'accord. Et je ne l'invente pas, ça a été dit. Sur le nucléaire, je ne suis pas sûre que Fabien Roussel partage les avis des bancs de la France Insoumise. Sur le sujet, par exemple, des carburants, Madame Rousseau, je le redis, et je l'ai interpellée sur ce sujet, elle n'a pas su me répondre. Elle est pour augmenter le prix des carburants et donc contre les boucliers tarifaires que nous avons mis en place, quand la LFI est pour baisser le prix du carburant en dessous du prix du marché, quitte à avoir du coup des mesures extrêmement dramatiques pour le pouvoir d'achat des Français, au final, ou alors pour avoir des mesures...
Baisser le prix des carburants, c'est dramatique pour le pouvoir d'achat des Français.
Bah oui, parce que vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'économie. Et les lois
tout
économiques, elles sont à respecter, à comprendre.
Et donc, sur l'île de la Réunion, il n'y a pas de loi économique.
Si vous voulez, oui, mais au final, il y a toujours quelqu'un qui paye, en fait.
Tout à fait. Et bien, nous, ce que nous proposons, c'est que ce soit les grands groupes qui s'en sont mis plein les poches.
Et donc, vous savez très bien ce qui va
plutôt
se passer.
Plutôt que les Français, parce que vous allez dire
aux pétroliers de vendre à perte. D'une, c'est illégal, et de deux, c'est complètement absurde. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont arrêter de livrer la France.
Bien sûr que non.
Ils vont arrêter. Et donc, comment vous allez expliquer aux Français, notamment
mais
aux
peuvent
infirmières,
pas mettre d'essence dans
aux enseignants,
mais ils,
qui
madame,
ne pourront plus prendre leur voiture pour aller travailler.
Déjà, ils ne peuvent déjà plus.
Ils
ne peuvent déjà plus prendre leur voiture pour aller.
On a mis en place des boucliers tarifaires. Votez pour à l'Assemblée
paye,
demain.
Qui les paye les boucliers tarifaires? C'est l'ensemble des Français. Vous prenez sur l'impôt. Vous prenez sur l'impôt.
Des mesures
prenez,
ciblées
madame,
en septembre, monsieur.
Vous prenez sur l'impôt des Français de quoi payer, continuer à payer les profits des pétroliers. C'est ça que vous faites. Vous prenez, en faisant des chèques pour payer de l'essence, vous êtes en train de payer avec nos impôts à nous, qu'on paye tous ensemble, des chèques qui, au final, vont servir à engraisser les pétroliers pour garantir la liberté du marché. Mais madame, quand Total fait 9 milliards d'euros de bénéfices, quand Total fait des dividendes records
vendre
de son
à
histoire...
Vendre à perte, ça veut dire quelque chose économiquement.
Vous avez l'impression qu'ils vendent à perte.
C'est ce que vous voulez mettre en place.
Quand ils font des records de profits, vous avez l'impression qu'ils vendent à perte.
On va retrouver Régine qui nous appelle près de Reims. Vous êtes près de Reims, Régine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute. Vous dites « J'ai voté RN par opposition à Emmanuel Macron », c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je voulais rappeler que la montée du Front National, du Rassemblement National est peut-être réelle, mais qu'il y a aussi des votes comme le mien qui sont simplement des votes de désaveu et de barrage au comportement du président, du dédain, de tout ce qu'il avait... de ce que voulaient dire des personnes comme moi, sans invisibles, on va dire, des majorités invisibles, voilà. Et qu'il y a trois grands groupes d'opposition, parce que l'abstention plus les Blancs plus les Nuls font plus de 57%.
C'est clair. Pourquoi est-ce que vous avez voté plutôt RN que NUPES?
Parce que j'avais pas le choix, j'avais que Ensemble ou RN. Sinon j'aurais voté, effectivement, NUPES.
Ah oui, c'était vraiment tout sauf Macron.
Exactement, comme déjà au deuxième tour des élections présidentielles.
D'accord.
Mais je crois qu'il n'arrive pas à comprendre que il faut tenir compte des électeurs, des humains, de la démocratie.
Moi, Régine, je comprends votre sentiment. Parce que je comprends qu'après 5 ans de Macron, on ait envie d'utiliser tous les moyens disponibles pour le dégager. Maintenant, on a été... Moi, je pense que voter pour le Rassemblement National, même si j'en comprends, mais voter pour le Rassemblement National, c'est finalement... donner de mauvaises réponses à des problèmes qui sont posés. Parce que le Rassemblement National ne fait pas de propositions réellement sur le pouvoir d'achat. La plupart du temps, il se contente de dire qu'il va tout financer en supprimant l'immigration. Or, en réalité, l'immigration rapporte, enfin, je veux dire, c'est des chiffres très concrets, l'immigration dans notre pays est quelque chose qui rapporte de l'argent, parce que, tout simplement, pour une raison très simple, il participe au financement des comptes sociaux. Et finalement, le Rassemblement National est une fausse solution, une fausse réponse au pouvoir d'achat. Par exemple, sur un point très précis, le Rassemblement National est opposé, comme LREM, à l'augmentation du SMIC. Nous étions les seuls, finalement, à le proposer dans cette élection.
Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir appelés. Ça va être compliqué à l'Assemblée nationale, on l'a vu dans ce court débat. Toute la NUPES ne va pas s'allier avec LREM, même au cas par cas, hein, ça va être très compliqué.
Ça va être compliqué,
Antoine Léonnement, nouveau député NUPES LFI, le confirme. Et Prisca Thévenot, nouvelle députée LREM également. Restez bien avec nous dans un instant, la suite de nos programmes, bien sûr. Merci Antoine Léonnement d'avoir été avec nous. Merci Prisca Thévenot,
merci
à vous tous de nous avoir appelés au 39-21. On se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi, à partir de midi, bien sûr, dans un instant, c'est Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Bonne émission, Elisabeth.
Merci Romain, à demain pour un nouvel Europe Midi.